Vous écoutez
RMC.
RMC. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
L'after uniquement sur RMC avec ce soir Jérôme Rantaine, Willy Sagnol, Daniel Riolo, Eric Dimeco et coach Corbis qui nous rejoint. Salut Roland.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Roland.
Coach. Alors coach, avant que je te donne la parole, je rappelle qu'il y aura un quiz tout à l'heure, vous serez tous concernés. Julien Cazard a préparé ça tout l'après-midi. Inscrivez-vous au 32-16 pour participer avec nous. Et puis je rappelle également, c'est important, que RMC se mobilise depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Et RMC s'est associé à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Donc vous pouvez faire un don en envoyant par SMS 92-111 pour donner 5 euros, ou bien vous allez sur rmc.fr si vous voulez donner plus. Tout est expliqué très clairement. Donc, pour aider le personnel soignant, n'hésitez pas à aller sur rmc.fr. Coach,
oui.
Tu as eu Hidalgo comme entraîneur.
Mais j'ai eu le plaisir de l'avoir, puisque bon, c'est pas parce qu'il est décédé, Dieu sait que c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai entendu ça, que je vais lui trouver que des qualités, puisque vous m'avez certainement entendu dans certains débats, après chacun ses goûts, bon, quel était le meilleur sélectionneur. Mais pour moi, le meilleur sélectionneur, ce qui ne veut pas dire que les autres sont pas bons, meilleur sélectionneur, c'était Michel Hidalgo.
Je suis d'accord avec toi.
Par rapport à ma carrière de footballeur et d'entraîneur après. Donc j'ai eu le plaisir de le connaître très jeune. Et j'ai un souvenir parce que c'est pas que je l'ai connu dans une période où il y avait des matchs importants. C'était un tournoi à Dunkerque et lui-même n'était pas sélectionneur officiel. Il y avait le sélectionneur de l'époque qui était Jackie Brown, qui était malade. Il avait remplacé, donc il nous avait accompagnés et on avait pu discuter de 2-3 petits problèmes moi qu'il fallait que je règle, à savoir mon utilisation en pro de soit milieu, soit arrière central. Lui était plutôt pour arrière central que milieu. Et après, ben, toujours gentil, toujours sympa, toujours si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Je l'avais d'ailleurs appelé avant de prendre la décision d'aller en Grèce. Là, par contre, il m'avait déconseillé. Je l'avais pas écouté parce que il m'avait dit que dans les profils d'arrière centraux qui se dessinent à cette époque-là, ben, je pouvais être en quatrième position derrière Marius, Adams, Boski allait partir à la retraite et ça se serait peut-être joué entre Christian Lopez et
donc
moi.
Donc si tu vas pas en Grèce jouer à Olympiakos, peut-être que tu deviens international alors.
Ouais, ben, disons que d'après Hidalgo et là-dessus, pourquoi pas, j'étais à l'équipe de France Junior avec Christian Lopez et c'était du 50-50 entre tous les deux et Christian, je crois, a réussi à avoir une cinquantaine de sélections. Donc est-ce que j'aurais pu faire aussi bien? J'en sais rien, mais pourquoi pas.
Tu en aurais eu quelques-unes, coach.
Alors ça c'est ton rapport avec Eric. Toi, Hidalgo, il t'a repositionné.
Ah, moi, il a changé ma... Alors, il y en a plusieurs qui ont la paternité de cette décision, mais il change ma carrière, puisque on en parlera peut-être, mais après sa carrière de sélectionneur, donc il vient avec l'arrivée de Bernard Tapie à l'OM en 86. Il est manager du club, je sais pas comment on peut le considérer, directeur sportif ou directeur... Ouais. Voilà. Et parce que Tapie ne maîtrise pas ce milieu-là. Et les arrivées, la première année de Gires, Foster, il y a Jean-François Domergue, il me semble, la première année qui arrive aussi, en 86, Jean-Pierre Papin, qui, Papin, même si c'est un jeune joueur, je pense qu'il y est pour beaucoup, mais en tout cas pour Gigi et pour Karl-Heinz Foster,
c'est lui.
Ben oui, tu vas chercher le meilleur défenseur central du monde et que tu es l'OM qui est un nain à l'époque sur la carte européenne.
Il l'avait connu à Séville, Foster.
Voilà, donc, notamment, tout le monde connaissait Hidalgo. Et donc, moi, j'avais été prêté les deux premières saisons. Moi, je jouais les gauches quand ils arrivent. Voilà, donc j'étais parti à Nancy, je jouais les gauches. Ouais, je mettais des galettes à la Jérôme Rotten. Voilà, mais je m'en mate pas aujourd'hui parce que.
Un peu plus rapide que Jérôme à l'époque, quand même.
Par contre, là, il aurait vu mon maillot pendant mon numéro pendant tout le match, Jérôme. Ouais. Et deux ans après, il y a Gérard Bagny de coach, il y a Arsène qui a fait l'essai et Michel, je suis sûr qu'il est dans l'idée de me tenter arrière gauche, ouais, et ça change ma carrière, hein, c'est clair. C'est pour ça que moi je l'ai connu que qu'à ce moment-là, pendant quelques années. Après, il est resté habité à Marseille, il était très proche du club, même quand il n'y était pas, toujours invité, toujours sympa, un homme adorable.
Il habitait toujours à Marseille, hein, c'est
toujours, toujours, ouais, ouais. Mais voilà, mais il a changé ma carrière, c'est clair.
Alors, en termes de jeu, là, parce qu'il faut qu'on parle un peu de ça quand même.
Mais justement, là où j'avais été quand même agréablement surpris, par rapport à une réflexion que j'avais pu avoir, moi, dans ma vision du football, tu sais, entre l'utilisation ou la récupération du ballon, ça a toujours été du 50-50. Mais si tu me demandais 51-49, je mettais 51 en avant d'être solide et après d'utiliser le ballon. Mais lui, c'était le contraire. Je ne l'ai pas entendu une seule fois nous parler de l'adversaire. C'était pas une victoire qu'il fallait obtenir, c'était une victoire qu'il fallait construire. Il nous parlait de ce qu'on allait faire quand on avait le ballon, qu'on décide rapidement, le contrôle bien orienté qui nous faisait gagner une demi-seconde, mais qui était très, très importante. Tout des trucs que j'ai pu noter et me servir par la suite.
Donc oui, donc en fait, la phase défensive, il la travaillait pas beaucoup.
Certainement, c'était une évidence pour lui. Donc une équipe puisse se replacer.
Il n'y avait pas de consigne défensive, quoi.
Ah non, non. Ce que j'ai pu faire moi, par exemple, et pas seulement moi, mais être vraiment précis dans la couverture, dans les fermetures, dans qui fait quoi. Non. On se replaçait. On avait le ballon. C'était une évidence de bien l'utiliser. Comment bien l'utiliser, ça, il te l'expliquait. Et par contre, la récupération, mais elle a passé bien, bien après.
Bon, de toute façon, il avait Louis et Tigana pour récupérer, vu comme il cavalait.
Mais c'était une période aussi où les défenseurs, c'était des défenseurs.
Ouais, ouais, mais ouais. Tu as eu quand même des originalités de sa part. Je crois que c'est lui aussi qui invente, parce que ça, pour moi, c'est une invention. Louis à arrière-droit.
Oui, il le met à l'Euro 84, ouais, notamment dans le France-Belgique. Louis joue arrière droit, ouais, c'est vrai.
Ouais, parce que je me rappelle le couloir gauche de la Belgique, justement, ce n'était pas un véritable attaquant, c'était un milieu offensif. Il a bien un nom, c'est pas un nom, c'est une phrase. Donc
qui joue à gauche en Belgique.
Ouais.
Mais c'est pas Vercotren.
Ouais, je crois, ouais. Je pense.
Kullmann, non, je vais pas là.
Non,
plus en devant, quoi, j'aurais dit, bon, ouais.
Et là, donc, finalement, on avait joué avec un faux arrière droit par rapport à un faux ailier gauche, qui était plutôt un milieu relayeur qu'un ailier gauche.
Ah, c'est de là que ça devient, cette idée-là, parce que toi, tu faisais ça tout le temps, toi. Mettre des faux joueurs là.
Ah ben oui, pas tout le temps. Ben oui, c'est vrai que mettre par exemple un gaucher en face un droitier, ben oui, ça me paraît être une évidence. C'était pas une invention.
Alors tiens, écoutez Michel Platini qui tout à l'heure sur RMC parlait donc de cette volonté d'Hidalgo de toujours jouer et d'aller vers l'avant.
Ben je pense qu'on a donné des émotions et Michel Hidalgo a été un créateur d'émotions puisque il avait une conception d'un football qui n'était pas très Ajax d'Amsterdam mais qui était beaucoup plus Stade de Reims ou Monaco des années 60-70 et donc il nous a donné toujours la liberté d'exprimer notre football. Il a toujours préféré des bons footballeurs et donc c'est pour ça que nous avions une équipe qui jouait systématiquement bien au football et même quand on perdait on jouait bien au football et pour regagner on était obligé de jouer très très bien au football.
Voilà. Il y avait beaucoup de matchs dans l'utilisation de Platini. Platini était souvent utilisé comme un faux numéro 9.
Platini était vraiment
un faux 9. Ah oui. Oui.
Le seul mec encore aujourd'hui à dire footballeur.
Tu peux réfléchir, tu peux virer, tu peux tourner. Donc,
c'est... Et chez les Belges, j'ai retrouvé la compo. Je pense que ça devait être Vercotren sur le côté. Il y a Van der Heyken qui était plus au milieu.
Mais Roland.
Chiffaut en 10, Vandenberg en avant-centre avec Nico Klaassen.
Ils avaient une belle équipe.
Je
crois qu'ils sont pris 4 ou 5, non?
5-0. Ouais. Ah bon. Et les Belges avaient une super équipe. Hein.
Eh oui.
Attends, je regarde
très,
parce que
c'est une équipe. Si Kullmann s'y joue, pardon, excuse-moi.
Ah, voilà, parce que je le vois. Et lui jouait sur ce côté-là.
C'était même le capitaine. Je suis complètement à la rue. Effectivement, il doit jouer de ce côté parce qu'il a le. Ouais. Il y Pierre Cotrène doit jouer au milieu gauche et l'attaquant gauche avec Tuchel Star.
Hidalgo disait, quand j'ai commencé à associer Giresse et Platini, on a commencé à me prendre pour un fou. Mais à l'époque, ça faisait, est-ce que ça faisait méga polémique quand il alignait tous ses meneurs de jeu, le fameux carré magique, avant que ça gagne?
Il
n'y
a pas de débat sur le foot, Gilbert.
Non, mais attends, mais si tu regardes, même aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir dans la même équipe de club ou dans la même sélection Tigana, Fernandez, Giresse, Platini, je pense qu'il y aura 9 entraîneurs sur 10 qui feront jouer tous les 4. À l'époque, ça a été un événement.
Mais surtout que tous les 4, à la limite, c'est pas du tout comme 81 quand il y a Gengini,
voilà, et c'est Giresse, ça, quand
et Platini.
Même.
Là, c'est pas du tout la même chose. Quand il y a le carré magique, parce que le carré magique, c'est Luis, Tigana, Giresse, Platini, t'as Giresse qui, on va dire, le meneur de jeu, Platini qui est l'homme libre, mi-avancante, mi-numéro 10, et les deux autres, Luis, faut voir comme il ramasse, hein, au milieu, c'est lui le milieu défensif.
Aussi,
hein.
Et Jeannot aussi était malin,
on parle même pas qu'il y a un relayeur, Jeannot, c'est le relayeur, on va dire. Voilà.
Pour intercepter, anticiper.
Bien sûr.
Et récupérer, donc c'était quand même, et même Gigi, intelligemment, il savait défendre.
Mais c'est pour ça que c'est plus spectaculaire quand il y a Gengini quand même. Parce que Gengini,
c'est le vrai carré magique, c'est ça, c'est pas
Gengini. Mais voilà, c'est pour ça que tu m'intrigues là, Daniel. Pour moi, le carré magique, c'est quand il y a Gengini quand même.
Disons que Luis, c'est une greffe dans le carré magique en fait.
Ben, il vient se rajouter.
Ouais. C'est le podium des 5.
Il vient se rajouter et il pique la place à Gengini. mais moi, le souvenir que j'en ai, qui marquait les esprits, parce que Gengini, c'était un numéro 10 à l'ancienne, quoi.
Alors,
je vais gauche.
Alors, sur l'appellation de carré magique.
Il faudra le retrouver, ça, Daniel.
Alors, je sais pas. La première fois que ça a été utilisé, il faudra le. Attends.
Je sais pas.
Essayez de chercher, là, les mecs.
Je ne sais pas si j'ai un tour de mémoire ou si je vais dire une connerie, mais au départ, ce carré magique, il vient quand même d'une blessure de Platini, et Platini ne joue pas. Et c'est Gengini qui joue. Et si on se rappelle bien, ce qui m'avait fait sourire à l'époque, mais bon, des conneries, on en dit tous, mais celle-là, elle était énorme, c'est qu'on se posait même la question, parce que ça s'était bien passé, si vraiment, bon, mais Platini, il fallait qu'il retrouve sa
place. Il y a eu ce débat, je me souviens très bien.
Je me pinçais quand j'entendais ça. Donc, et ça avait bien marché, parce que si on se rappelle bien cette Coupe du Monde en 82, et là-dessus je m'en suis servi moi pour que justement les matchs de préparation avaient un intérêt, parce que c'était obligatoire de les faire, il était indispensable de les faire. Mais quand on parle de la Coupe du Monde 82, si on se rappelle bien comment on la démarre, cette Coupe du Monde, on se prend une droite dans la gueule par les Anglais, on change 3-4 joueurs, on invente Jean Vion au poste de stopper, et puis ça marche. Et puis, on continue. On a quand même notre petite chance dans les poules. Il y a une poule, il y a l'Italie, l'Argentine et le Brésil. Nous, on est avec l'Irlande, je ne me rappelle plus encore, la Tchécoslovaquie, je crois.
De quoi tu...
82,
c'est l'Irlande du Nord et l'Autriche dans la deuxième phase.
Voilà, et pendant
ce temps... Dans le premier groupe, c'est Koweït, Tchécoslovaquie, Angleterre.
Et pendant ce temps, tu as Italie, Argentine et Brésil dans le même groupe.
Où tu dois aussi avoir Pologne avec la Belgique, tu as l'Angleterre et l'Allemagne dans un autre groupe.
Les groupes
sont compliqués.
Non, mais je l'ai sous les yeux. C'est Pologne, Italie, Cameroun, Pérou.
Non, ça c'est le premier tour.
Ouais.
Ah, le premier tour, l'Italie est avec le Pérou, le Cameroun et la Pologne. Après, il y a l'Italie, Brésil, Argentine. Parce qu'après, il y a une phase avec trois équipes dans un petit groupe.
Voilà.
Et c'est le premier de ce petit groupe de trois qui va en demi-finale.
Très juste.
Parce qu'en fait, il y avait en 78, il y avait 16 équipes et on était passé à 24 équipes en 82. Donc ça donnait quatre groupes de quatre et ceux qui sortaient après se retrouvaient dans des petits groupes de trois.
Et là où ça se passe le carré magique par l'absence de Platini, c'est contre l'Irlande, c'est pas contre le Brésil, l'Argentine ou l'Italie.
Alors justement sur la 82, il y a une histoire qu'on n'a pas racontée tout à l'heure qu'il faut quand même se remémorer, c'est la fameuse histoire du France-Koweït. Donc là, on voit France-Koweït. La France est largement supérieure, elle gagne tranquille.
La Michel, il a montré les dents.
Oui, alors là, c'est là qu'on voit qu'il était quand même capable de s'énerver.
Ça n'a pas servi à grand chose. Hein,
De quoi, qui s'énerve?
Ben oui. Non.
Donc tiens, on avait encore un extrait du match.
Mais on avait l'impression qu'il pouvait rien faire en fait.
Ah mais attends, mais il avait été annulé le but.
On écoute.
Moi, toujours le chef qui descend sur le terrain et qui va demander à ce joueur assez tout à fait insolite comme débat.
L'arbitre qui est en train de revenir sur sa décision et qui va faire une balle à terre.
C'est un scandale parce que s'il suffit qu'un président de fédération descende sur la pelouse pour faire changer d'avis à l'arbitre, ouais, alors maintenant c'est les Français qui vont se plaindre. Hidalgo qui est rentré sur le terrain va provoquer un incident, la caméra ne le suit pas. Hidalgo est repoussé par les forces de police, voici les images.
Je comprends sa colère.
Cette fin de match est scandaleuse.
Donc là, pour ceux qui ont raté ça, les plus jeunes, le président de la fédération koweïtienne, qui est le frère du chef de l'État,
le l'émir,
et voilà,
ouais, qui d'ailleurs est décédé dans la guerre contre
de la guerre du Golfe, ouais, quand il y a l'invasion par
l'invasion de l'Irak.
Et donc le gars, oui. il voit que son équipe prend une danse, donc là il descend, il dit non, on annule le but là. Et l'arbitre, le pire, c'est qu'il annule le but.
Bien sûr.
C'est ça qui est fou. C'est incroyable.
Ah non mais attends, mais c'est incroyable. Mais heureusement que ça a pas changé le score. Ni le vainqueur, c'est ça. Ah ouais, sur non, un truc comme ça, parce que ça aurait pas été mémorable, ça aurait été, je sais pas.
Et quand vous voyez les images, Hidalgo il s'énerve à tel point qu'il y a un caméraman de TF1 à l'époque qui vient, qui veut le suivre comme ça, et là il met un coup de poing à la caméra, genre allez, casse-toi.
Mais non, mais
c'est genre Roger Lemaire à la canne.
Ouais, mais c'est sûr, mais à la différence, c'est que si ça arrive à Roger, on n'est pas surpris, mais Michel, c'est la première fois qu'on le voit dans cet état.
Ah voilà, ouais, bah ouais.
Et puis alors, après, la première, et peut-être la seule.
Petite précision, les amis. Donc, pour l'histoire du carré magique, la construction, c'est la version officielle. C'est toujours dur les appellations quand est-ce qu'elles naissent. La construction, oui, c'est Platini, Giresti, Ghana, Gengini, 82. Mais Giresti a déclaré notamment dans une interview à l'équipe que le terme carré magique n'est intervenu que plus tard dans l'histoire, lors de l'Euro 84.
Ouais, je suis absolument d'accord.
D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire avec Louis.
Absolument.
Ah, oui, avec oui. Louis. L'appellation carré magique, c'est avec Louis, c'est pendant l'Euro 84. Même si le milieu à 4, Platini, Giresti, Ghana, Gengini, intervient en 82. Ce qui était déjà une nouveauté, une autre nouveauté, parce que la plupart des équipes jouaient en 4-3-3 à l'époque. Et lui, il avait donc mis dans cette équipe 4 milieux de terrain, qui étaient une sorte de.
Avec un 3
de losange. Une sorte de losange où Platini jouait le rôle le plus d'un avançant.
Avec 3 numéro 10 de chez numéro 10.
Avec les attaquants qui s'écartaient.
Platini, jouait exactement le rôle de Zlatan avec le Paris Saint-Germain, quand il y avait Cavani d'un côté et Lucas de l'autre.
Willy Sagnol qui écoute ça attentivement doit se dire tiens je vais peut-être tenter les trucs la prochaine fois que je serai coach.
Bah attends mais si tu me files Platini, Giresti et Tigana je le fais.
Et Louis, c'est possible que tu les mettes titulaires hein.
Mais ouais, tu sais quoi, faudra discuter.
Question pour Roland, qui est celui forcément qui a peut-être le plus de mémoire tout temps parce que c'est Flo Gautreau qui pose et la question et qui rappelle juste un truc. Ouais. Gilbert par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le coup franc de Domergue, à tel point on était persuadé que c'est Platini qui allait tirer. Flo Gautreau me rappelle, il m'envoie un message, il me dit rappelez-vous que le réalisateur avait mis le synthé Michel Platini. Tellement sûr que c'était Platini qui avait tiré le coup franc. Et ça avait surpris tout le monde que ce soit Domergue. Ensuite, et c'est là la question Roland, il dit, est-ce que toi tu te souviens de débats à l'époque où on disait que c'était Platini qui faisait l'équipe et de gens qui réduisaient un petit peu le rôle d'Hidalgo.
Qu'il intervenait sur certains choix et qui discutait avec Michel Hidalgo de la même façon que pouvait discuter Zizou ou Deschamps avec Jacquet, oui.
Oui, ben c'était pas un débat, Daniel. Ça, c'était déjà affirmé ça comme quoi pour dévaloriser le travail de Michel Hidalgo. Mais comme dit Roland, c'était même pas un débat. C'était pour le dénigrer. On disait, pour moi, c'est Platini qui fait l'équipe.
Il faisait en fait Platini ce qu'a fait Zidane avec Domenech en 2006. C'est ça.
Non, là c'est vraiment non. Là, non c'était.
Bah oui, bah Zizou il devait donner.
Mais
tous les grands joueurs ont donné leur avis sur l'équipe, hein, je pense. Hein.
C'est pas donner un avis, c'est.
Non, mais attends, mais il serait con pour un sélectionneur de pas se servir de Platini pour discuter avec, de voir un petit peu sa vision dans certaines zones de l'équipe et après réfléchir. Ça serait stupide de pas utiliser Platini.
Oui, mais Roland, excuse-moi, mais ça peut être choquant aussi quand tu ça veut dire que même si tu te sers de ce que pense ton meilleur joueur, oui, d'accord, mais que Platini intervienne dans le choix des hommes avec Hidalgo, excuse-moi, moi,
ah non, je suis surpris. Ouais. Je pense pas qu'il choisissait les joueurs. Je pense qu'il parlait de football avec son coach, quoi. Je pense pas qu'il faisait Michel faisait la sélection.
Je voyais pas Platini, moi, aller intervenir auprès de Michel Hidalgo pour la composition d'équipe. Par contre, discuter avec Platini pour se dire, tiens, je pense qu'on va partir comme ça, après peut-être en deuxième période on fera comme ça. Bah oui, ça, c'est
le travail je pense que la situation, Roland, forcément, vous serez d'accord, la situation, elle était quand même particulière. D'abord parce que les deux Michel étaient pratiquement, on va dire, nés ensemble. L'aventure, ils l'avaient construite ensemble. Donc qu'il y ait une osmose entre les deux, c'était plus que normal. Et n'oublions pas, et comme je reparlais tout à l'heure du contexte et de ce qu'était le football français à la fin des années 70, c'est-à-dire parti de rien pour se construire petit à petit, il faut aussi mesurer ce qu'était Platini. Non seulement c'était un joueur extraordinaire, mais en 82, à l'été 82, il n'y avait pas de joueur français qui jouait à l'étranger. Lui, il va dans un des plus grands clubs du monde, il en devient le leader et il est Ballon d'Or en 83. Comment veux-tu que ce mec-là, ensuite, pendant l'Euro 84, pendant les années qu'on suivit, même quand Henri Michel est devenu le sélectionneur, comment envisager que Platini n'était pas au centre de tout? En plus, les coéquipiers l'adoraient, parce qu'il n'y avait jamais, il n'y avait aucune inimitié vis-à-vis de lui, parce qu'il rassemblait tout le monde. Évidemment que Michel Hidalgo et Michel Platini étaient main dans la main et qu'ils ont construit l'équipe de France ensemble. Que l'autre ait décidé ceci ou cela, ça n'a rien à voir avec les époques où, quand Jérôme parlait de Zizou avec Domenech. Non, là, on parlait. C'est vraiment un football où, Platini était Ballon d'Or, c'était une star, et il n'y en avait pas d'autres en France, parce que il n'y avait pas d'autres joueurs aussi importants.
Pour être meilleur buteur en Italie pendant 4 ans, je crois, dans une équipe où celui qui joue devant toi, il s'appelle tout simplement Paolo Rossi, et marquer plus de buts que Paolo Rossi dans cette équipe, sincèrement, c'est pas évident du tout.
Tout à l'heure, Michel Platini était sur RMC, et Jean-Louis Tour, qui n'en aura jamais une, lui a dit, alors, il paraît qu'à l'époque, c'est vous qui faisiez l'équipe. Ben justement, c'est notre débat. Réponse de Platini.
Mais c'est complètement faux. Je pense que, je le redis fermement, M. Hidalgo a toujours fait la sélection, M. Hidalgo a toujours fait les 11 joueurs. Et après, certes, on se réunissait entre nous pour regarder comment on jouait, parce qu'on était habitué à jouer des grands matchs, on était tous des grands joueurs, on jouait contre les grandes équipes. Donc on connaissait les joueurs d'en face, donc on se réunissait ensemble pour dire comment on a joué. Et c'est la force de M. Hidalgo d'avoir confiance en nous et de nous donner la possibilité d'être libre et de jouer en fonction de ce qu'on ressentait. Mais c'était lui qui créait l'équipe, c'est lui qui mettait le bon joueur sur le terrain.
Ouais, c'est quand même...
mais si par exemple tu poses la question à Michel Platini, attends, excuse-moi.
T'as entendu ce qu'il a répondu quand même?
Absolument, mais imaginons avant le match contre l'Allemagne que tiens, j'ai pris plaisir à regarder, ça m'a un petit peu rajeuni. Quand je vois l'attaque de la France, il y a Rocheteau qui est plutôt aller un attaquant côté droit qui peut se déplacer, ok. Six, et t'as pas de véritable numéro 9, c'est Platini qui joue en 9, 10. Eh ben, donc ça c'est sûr que ça a pu être discuté avec Michel Hidalgo en disant, tiens, voilà, je pense qu'on va jouer sans véritable numéro 9, c'est toi qui joueras. Mais Platini, tu dis, mais pas de problème, au contraire, parfait. Donc ça c'est une discussion qui a pu se passer.
Parce qu'il dit quand même, Platini, il donnait le 11 et puis on se réunissait pour voir comment on allait jouer, c'est ce qu'il a dit.
Ouais, ça c'est autre chose.
Évidemment qu'il y avait une influence importante. Oui, bien sûr, mais avant d'osmose, c'était une aventure,
avant de
le 11, avait construit un truc quand.
Avant de donner le 11, il y a pu y avoir des petites discussions aussi. Mais ça serait stupide de pas se servir de Platini.
Dans quelques instants, on revient, les gars. On aura Karim avec nous. Et puis, il faudra qu'on re-raconte également l'aventure extraordinaire d'Hidalgo quand il est allé essayer de recruter Maradona. Donc, pour l'OM à l'époque, c'est une histoire de dingue, ça. On la racontera dans quelques instants. Sans oublier le quiz dans une vingtaine de minutes avec Julien Cazard. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Coach Courbis est là, Eric Dimeco est là, Daniel Riolo est là, Willy Sagnol est là, Jérôme Bretagne est là. Autant dire que là, c'est la Dream Team de l'After à son paroxysme. Messieurs, dames, profitez-en, c'est pas tous les soirs. Alors, on va accueillir Karim au 32-16. Il nous écoute depuis un moment, Karim, pour parler de Michel Hidalgo. Karim, bonsoir.
Bonsoir à tous, et je suis très très heureux.
Salut Karim.
Salut Karim. Je vous écoute depuis le 9 juillet 2006, le soir de la finale à Berlin. Depuis, vous avez toujours écouté. j'étais dans une voiture, je rentrais de chez des amis, j'étais triste d'avoir perdu la finale. Mais bon, depuis, je vous écoute. Et j'ai toujours dit, je vous appellerai le jour où Maradona sera mort. Ben, je vous appelle aujourd'hui.
Bon, pas pour enfin, toi, parce que Hidalgo, pour toi, c'était quelqu'un d'important?
C'est pour moi le plus grand entraîneur qui soit jamais passé en France et un des plus grands au monde. J'en parlais avec un ami la semaine dernière. Je disais qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Cet homme-là, pour moi, a devancé des mecs comme en tant qu'entraîneur, hein, a devancé dans des gens comme Cruyff, Guardiola, Bielsa. C'était le football total sans le pressing.
Là, je pense que tu as quand même une petite exagération, puisque si je me permets de te couper.
C'est pas l'entraîneur, c'est un
sélectionneur. Et ensuite, ni avant ni après. Il a voulu être entraîneur de club. Donc
c'est pour ça qu'il est grand, justement. Il n'a pas voulu.
Ouais, c'est difficile aussi de pouvoir faire après les comparaisons avec Cruyff. Donc,
c'est vrai qu'Hidalgo, on l'a jamais vu entraîner un grand club sur le long terme. Ça, c'est vrai.
Non, mais après c'était des métiers qui étaient différents. C'était l'époque puisqu'on a beaucoup parlé de 82, à cette époque-là par exemple l'entraîneur des champions du monde, c'était un mec de la fédération, Berzot.
Absolument.
C'est un mec qui absolument. C'était des gars, il y avait l'Italie il faut savoir que pendant des décennies, c'était des mecs de fédération qui faisaient l'équipe nationale, pas des mecs de club. Ceux qui ont suivi Berzot jusqu'à ce que Sacchi arrive prendre la sélection alors qu'il avait connu un club, c'était pas des mecs. Et en Allemagne pareil, Joop Derwal, faudrait que je retrouve, mais je suis pas sûr. Celui qui est à Séville, donc face à la France, je sais pas si c'était des mecs qui avaient entraîné des clubs et tout. Beaucoup, c'était les mecs de fédération qui prenaient les sélections. Il y avait beaucoup ce phénomène-là.
Oui, ça, c'est vrai. On n'a pas d'explication sur le fait que derrière l'équipe de France, il n'ait pas eu envie d'entraîner.
Mais pas seulement derrière.
Il était à la retraite, déjà, il était vieux.
Non, mais pas seulement derrière, avant aussi, Gilbert.
Oui, bah on en parlait avant que tu arrives, en début d'émission tout à l'heure. Il était déjà au sein de la Fédé, c'est là qu'il s'occupe de toi d'ailleurs à ce moment-là. Là.
Voilà, donc là il fait comme je dirais, bon, allez, un dépannage, il accompagne l'équipe de France Junior dans un tournoi à Dunkerque, mais en plus il s'est régalé, tu vois, le gars qui a pris plaisir, et nous aussi on était très contents parce que on savait sa carrière de joueur, le milieu monégasque des époques des années 60, Biancheri et Hidalgo, ben avec Théo qui avait cette patte gauche extraordinaire.
T'as des souvenirs de Hidalgo joueur, toi?
Donc très vague, mais par contre des images, oui. Et un milieu relayeur, récupérateur, bon footballeur, qui était dans l'époque du WM, demi, et non pas Inter. Inter, c'était Duis, Théo, et je me rappelle.
Demi, c'était le milieu défensif d'aujourd'hui, en fait. C'est ça?
Ouais, c'était le 4 et le 6 du WM, où il y avait un seul arrière central qui était le numéro 5. Et là, tu avais Hidalgo, Biancheri, une paire de milieux qui pouvaient rivaliser avec le Real Madrid.
Et alors l'Inter, c'était le demi, c'était voilà. Et
l'Inter, c'était le
haut, l'Inter.
Le 8, tu le mets devant le 4, là, et le 10, tu le mets devant le 6. Et donc, et le numéro 9 au milieu. Et il n'y avait aucun calcul, c'était un petit peu comme en rugby, tu vois. C'est comme s'il y avait une obligation qui est un ailier droit, un ailier gauche, un numéro 9, deux numéros 10, c'est-à-dire un 8, un 10, deux numéros 6. Et après, il y a un entraîneur magicien qui a dit, si je faisais reculer le numéro 4 à côté du numéro 5 pour qu'il soit pas tout seul, j'ai peur qu'il s'ennuie. Eh ben voilà, après ça a changé. Après le milieu droit, ben l'ancien milieu droit est devenu un milieu droit, et puis après tu pouvais t'amuser comme tu voulais avec le 4-4-2, le 4-3-3, mais le WM était assez marrant parce que tu jouais contre une équipe qui jouait en WM, et c'était pratiquement des duels dans toutes les zones. Le 4 il s'occupait du 10, le 6 il s'occupait du 8, c'était et le 5 il s'occupait du 9. Et quand tu avais un numéro 5 qui se cassait la jambe, eh ben tu joues à 10 jusqu'à la fin, comme ça s'est passé en 58 avec
Jacques. Il n'y avait pas de déséquilibre là.
Il n'y avait même pas eu l'idée d'avoir une 12e homme.
Encore une idée pour Willy Sagnol quand il reprendra un poste. le WM, si tu veux.
Non, mais le WM, c'est quand même connu. On l'appelle plus comme ça, parce que maintenant il faut mettre des chiffres à tout bout de champ, mais c'est quand même.
Oui, ça ressemble. ressemble voilà. à une défense à 5 en fait.
Ouais, un petit peu, oui.
Karim, ouais, tu peux voir ça comme ça.
Karim,
oui.
je propose que tu n'attendes pas le décès de Maradona pour nous rappeler. Hein.
Non, mais sincèrement, c'est comme vous voulez. Hein. Et moi, je vous suis depuis toujours, un grand fan. Et puis, n'hésitez pas, au fait, je ne sais pas pour me lancer des fleurs, je suis une encyclopédie. Hein. Des fois, vos quiz, j'arrive à vous les torcher en 5 minutes. Hein. Sincèrement.
Très bien, bravo, Daniel, Karim.
Daniel.
Ouais, je t'écoute. Ouais,
je voulais dire que je t'écoute tous les soirs. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je suis un grand fan. Je te suis depuis longtemps.
C'est gentil.
Mmh. Et puis je crois juste pour terminer, toi et moi, on est du même mois de la même année, avril 70.
Ah donc, bah tu vois, effectivement.
On aime le même foot, on aime les mêmes
ça
joueurs.
Ça vient,
Karim. On sait comment.
Alors dans ces cas-là, tu.
Alors Karim, excuse-moi, mais pour la
dans ces cas-là, doit pas y avoir souvent. T'es pas d'accord avec moi alors.
Franchement, je suis quasiment toujours d'accord avec toi.
Ouais, t'as le droit de te tromper deux, trois fois, c'est pas grave.
Il y a quelque chose où je suis pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à te le dire hors antenne, parce que ça va faire jaser. Il y a un sujet sur lequel je suis pas d'accord avec toi, mais je préfère en parler hors antenne, parce que voilà, j'ai pas envie que ça fasse jaser.
Ouais, c'est là, les gars, là, parce que vous êtes bien gentils, mais vous allez tous avoir 50 ans bientôt.
Bah, pourquoi t'appelles pas un soir où l'actu n'est pas aussi triste et nostalgique que ce soir, et puis on parlera de tout ça ensemble à l'antenne.
Je voulais te défendre. T'es assez grand pour te défendre et tu te défends bien. Je voulais t'appeler il y a quelques années pour Benzema parce que tu t'es fait insulter de tous les. Alors vu mon prénom et mes origines,
j'étais 100%
d'accord avec toi parce que c'était juste une affaire de voilà, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, tu t'es fait
insulter bêtement alors que voilà, alors que la France de
Jean-Pierre
comme communautariste, c'est chiant. Voilà.
Dis-moi, t'as des enfants?
Non, je suis seul.
Bon, si t'as des neveux ou des nièces, dis-leur d'écouter l'after parce que vous là, vous commencez à être tous vieux là. Nous, il faut qu'on renouvelle un peu là. Les auditeurs de demain là, ils sont où?
Gilbert, juste une seconde. J'ai un neveu de 8 ans qui vient avec mon frère à Montpellier. Je lui ai dit de regarder hier soir Brésil-France. Il m'a rappelé ce matin en me disant ça, c'est du vrai football, tonton. Voilà,
parfait. Bravo, ouais. Karim.
Bravo, Karim, je t'embrasse, à bientôt.
Alors oui, il faut qu'on conclue quand même, il faut raconter cette histoire de Maradona. Donc, Hidalgo, manager de l'OM, va à Naples pour essayer de recruter Maradona. Et Hidalgo, à l'époque, est une sommité, Eric. C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier du foot. C'est-à-dire que même Maradona, il reçoit Hidalgo. Il sait
exactement.
Qui c'est. Bon, voilà.
Oui.
Donc, Hidalgo se pointe chez Maradona, il rentre chez lui. Alors, il y a 50 000 personnes. Hidalgo, il est un peu paumé, il dit je sais pas qui est qui. Bref, il arrive à choper Maradona dans la cuisine. Et puis, commence à lui vendre l'article et tout. Il dit ouais, bah Marseille, si tu viens et tout, on fera ça. Et là, Maradona, il voit la montre d'Hidalgo, il dit elle est bien ta montre là. Et là, Hidalgo lui dit si tu viens à Marseille, t'auras la même. Et là, il dit là, j'ai vu que Maradona, il commençait à être intéressé. Ça, c'est quand même extraordinaire. Bon, au final, il n'est jamais venu, hein, mais bon, voilà.
Mais Michel expliquait que Maradona lui avait donné lui avait dit OK, quoi. Ouais. Mais après, c'est une sombre histoire de mafia, d'après ce que j'ai compris, cette histoire-là.
Ouais, c'est-à-dire qu'il était retenu à Naples,
finalement. Bah oui.
Je ne sais pas, Daniel, si tu veux rajouter un truc là-dessus. Mais,
bah, il doit le savoir, Daniel,
l'histoire. C'est incroyable, hein. En fait, finalement, par rapport à.
Je sais pas, j'ai entendu mille fois cette histoire. J'ai
à l'entourage de Maradona à Naples, en fait. Tu vois,
ouais, j'ai l'impression qu'on peut jamais réellement. Voilà, j'ai l'impression que quelque chose.
Non,
la ligne est toujours là.
Ça
avait sauté.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on n'a jamais réellement su la vérité. Si Eric ne sait pas exactement de ce qui s'est passé,
disons que le seul truc qu'on peut savoir pour moi, c'est que pour sortir Maradona de Naples, c'était très compliqué. Il n'y a pas besoin d'être.
Il fallait discuter pas seulement avec le président du club.
Voilà.
Quoi.
Il y avait des intermédiaires qui étaient un peu retors.
Attends, je crois qu'on a
pas commande.
On a une archive, on va voir. On l'a pas écouté celle-là. Ça va être la surprise de Hidalgo qui parle de ça.
Et 5 minutes après arrive Maradona qui me dit Mister Hidalgo, bonjour. Il était intéressé de venir à l'Olympique de Marseille parce que on avait parlé d'une maison au bord de mer à Cassis, d'un jardin, de tout ce qui faisait la beauté de notre région à nous.
Voilà, parce qu'à Naples il était dans un appart avec les vitres, enfin les stores baissés toute la journée.
Quoi, jardin en fait.
Bah, il avait pas de vie là-bas.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, là il pensait avoir une vie un peu plus tranquille. Bon, il connaissait peut-être pas trop l'OM non plus parce que je sais pas s'il aurait été tranquille ici.
Bon, je reçois des dizaines de messages ce soir. Il y a beaucoup de monde, hein. C'est assez étonnant. Je ne pensais pas qu'on serait aussi suivi ce soir sur ce sujet-là, comme quoi le décès de Michel Hidalgo provoque beaucoup de choses. C'est beaucoup de gens ce soir. Donc, je ne vais pas lire, il y a tellement de messages. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir envoyé ces messages. L'émission, réécoutez-la en podcast si vous avez raté le début. Ce sera en ligne très vite ce soir. On nous demande aussi de parler de son successeur, Henri Michel, lui aussi disparu, qui a aussi connu le succès, pas aussi fort que Hidalgo, mais enfin la Coupe du Monde 86, c'était quand même une très belle Coupe du Monde pour l'équipe de France malgré tout.
Ah bah oui, oui.
Mmh. Avec Henri Michel qui derrière est resté encore. 90 il part, Henri Michel, hein, si je dis pas de bêtises.
En 88 il part. 88 il se fait débarquer au putsch.
Ouais, voilà. Bah c'est Platini en 88.
Exactement. Bah oui, exactement.
Et c'est là que c'est qui débarque ? Éric Dimeco,
monsieur oui. Et oui, oui, oui.
Et voilà.
Le platoche.
Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ?
Oui. Alors après, ça fait bizarre de crier fort dans la maison à 23h38 quand même.
Ah ouais,
moi, je crie à 17h40 normalement, tu vois, les voisins sont réveillés. Tu vois.
Ferme les fenêtres.
Ah ouais, non, là, ça va être terrible.
Attention, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Alors là, messieurs, dames, attention, quiz historique à venir, puisqu'ils sont tous là, évidemment. Et on va s'organiser de façon un peu originale ce soir, en compagnie de Julien Cazard, évidemment, qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous. Et je vois qu'il y a des petits nouveaux. Il y a des petits nouveaux.
Des bleubites.
Il y en a qui font les malins parce que la concurrence est moindre dans leur quiz de campagne de l'après-midi.
Et oui.
C'est fini, ça. C'est fini.
Il faut dire qu'au Kikadi, Eric, il éclate la terre entière toutes les semaines.
Oui, donc, à part que je me suis juste fait éclater par. Tu sais que j'ai monté pendant le confinement, j'ai monté le Masters of Kikadi. Donc il y a des 1 contre avec un tableau comme au tennis et tout, avec des têtes de série et tout, et ben j'étais tête de série numéro 2, Antoine Varnier m'a défoncé. Voilà.
Antoine Varnier.
Ce jour-là, c'était une épée.
C'est Federer qui se fait sortir au premier tour de Roland Garros.
C'est arrivé déjà, donc voilà.
Non, il t'a fait une Eric Vinogradsky, quoi.
Voilà.
Qui a sorti.
J'aime beaucoup cette formule. On devrait l'adopter dans l'after dans les jours qui viennent, d'ailleurs.
Mais moi, Daniel. si vous voulez que je vous monte des tournois, moi c'est ma spécialité. Hein. J'ai toujours été, même quand je jouais, j'ai toujours été géo pendant les stages et tout. J'organisais le jeu et tout. Il n'y a pas de souci. Je vous monte un quiz spécial si vous voulez.
Alors, ce qu'on va faire, Julien, je te, si t'es d'accord. Comme on est beaucoup, je propose qu'on fasse trois équipes. On va faire le quiz des régions. Quiz des régions, on va faire une équipe marseillaise. Éric Dimeco, Roland Courbis.
Est-ce qu'on peut s'appeler la team Raoult, nous ?
Team Raoult, si tu veux.
Mais il n'est pas marseillais.
Mais
il n'est pas marseillais.
On s'en fout.
Mais il n'est pas plus
vous
marseillais que
obligé.
Bernard Tapie.
Toi, le premier, tu vas être obligé de crier « Allez l'OM pour avoir ton petit cachet pour te sauver ». C'est mais terrible.
J'en ai pas besoin, moi. Tu sais, pas un virus à la con qui va m'attraper. Moi, j'ai tellement de conneries dans le corps.
Je ne savais pas que les Marseillais, même sur la maladie, ils étaient chauvins.
Non. Mais il n'est pas marseillais. Il est moitié breton, moitié normand.
Moi, il peut être ce qu'il veut, mais
ouais, tu as raison.
Tant qu'il trouve le médicament.
Moi, je lui trouve une vague ressemblance avec René Malville. Donc, ça valide le fait qu'il soit marseillais.
Heureusement pour nous, c'est pas René Malville qui va trouver le sérum, quand même, le vaccin.
Quoique, je l'ai vu l'autre fois avec un verre dans la main, il avait l'air d'être bien en forme. C'était peu jaune. C'est peut-être ça le secret.
Je peux te dire. Sans verre dans la main. Ça existe sans verre dans la main,
Malville. Oh, il est bien.
Quand il a pas dans la main, il a dans le nez. Donc c'est pas
il est au top. Il est au top, René Malville. Alors attention. Quiz des régions. Donc on a l'équipe marseillaise. Je propose une équipe Île-de-France, Rio-Lorotaine.
Ah oui, ils sont obligés d'être ensemble, les deux tennis.
Oui, parce que tu peux pas dire Paris vu qu'ils viennent de banlieue, c'est sûr. Donc,
quelle banlieue.
ça vous convient, Jérôme Daniel?
C'est Châtenay-Malabry,
ah,
les Orangis.
Parfait.
Je propose
les petits blonds bien apprêtés, tout bien avec le truc. Qu'est-ce qui me plaise, hein.
Et je propose une équipe, on va dire, germanique, Sagnol-Bribois.
Ah oui,
ah, ça,
ah ouais,
ça,
là, attention,
ça allait les poches.
Oh, c'est direct, oh casque à pointe, direct. Crac.
On est pas mal, là. Quiz des régions, on est pas mal.
Magnifique. Bon. Allez, c'est bon. Parti.
Julien, alors, tu veux un jingle ou pas?
Bah, si, ça coûte pas plus cher, hein. Vas-y.
Alors, ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
Voilà.
Eh bien oui, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Non, je m'ai vraiment su, c'était un salaud, monsieur Foot, mais on l'embrasse là où il est. On va commencer par un petit truc sympa, le quoi qu'est kiff kiff. Hein. J'ai arrêté le kick à Pali parce que plus personne dit rien. Donc, donc au bout d'un moment, ça devient un peu relou. Donc kick. Alors quoi qu'est kiff kiff. Attention, quoi qu'est kiff kiff. Mbappé, Robert Pires, Raoul, Franck Ribéry, Luis Figo. Quoi qu'est kiff kiff.
C'est leur façon Mbappé. De courir avec les pieds écartés.
C'est ça, en moonwalk. Non, pas du tout. Mbappé, il court les pieds écartés, à la vitesse à laquelle il va, il est dans la merde.
Redis.
Franck Ribéry, Luis Figo, Robert Pires, Raoul, Mbappé. Je peux en rajouter un, ça va être vraiment, ça va aller très vite hein, si j'en rajoute un. Je rajoute Georges Best.
Allez, numéro 7.
Numéro 7, et oui, j'ai pas dit Ronaldo, oh. C'était trop facile. Numéro 7, il est là, Dimeco, hein. Il est là, hein. Même tard. Hein.
Bien joué, donc, Eric.
Même à son âge avancé.
Numéro 7. Bah, il avait le numéro 7.
Ils ont tous le numéro 7.
Ouais. Ils ont toujours eu le numéro 7 quand ils étaient au top, pratiquement. Ils ont eu le numéro 7 au moins.
Mbappé, il a toujours eu le numéro 7 ?
Non, mais il l'a eu au PSG au top. Non, mais ils ont porté le numéro 7.
C'était leur numéro
équipe.
De référence, quoi. Voilà.
Voilà. Raoul, Robert Pires, Franck Ribéry, Figo, c'est leur numéro de référence.
J'aurais pu rajouter 4 donnes, du coup.
Oui, mais trop facile, trop évident. Oui. Trop évident. Attention, vous êtes
pour
prêts
l'équipe Marseille.
George Best, George Weah, Shevchenko, Risto Stoichkov.
Au Ballon d'Or ?
Ballon d'Or ?
Alors, je bloque Dimeco, Ballon d'Or, mais je veux une précision. Je veux une précision. Ils ont une particularité.
Répète le nom.
George Best, George Weah, Shevchenko et Stoichkov.
Ils n'ont eu qu'une fois.
Ils n'ont eu qu'une fois, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il y en a d'autres qui l'ont eu qu'une fois. Là, je rouvre. Tout le monde peut répondre. Ils ont une particularité. George Best, George Weah, Shevchenko, Stoichkov.
Ah, ils l'ont eu en étant à cheval sur deux clubs différents.
Non.
Ils sont au numéro 9.
Non.
Ils l'ont eu sans avoir été champion du monde.
Non. Alors, je vais vous donner la réponse.
Ils l'ont eu sans avoir rien gagné cette année-là.
Pas du tout.
Il a eu en gagnant la Ligue des Champions.
Pas du tout.
Oh merde. Non, c'est pas ça.
Alors, je vais vous le dire. Ils sont le seul représentant
De leur pays.
De leur pays à avoir gagné.
Putain.
Ah, ouais,
puisque oui, on est obligé.
Il y a eu un autre Ukrainien avant, mais il a joué pour l'URSS. Donc le voilà, George Best pour l'Irlande du Nord.
Blokhin.
Non, c'est pas Blokhin.
C'est pas Igor Belanov.
C'est Belanov, ouais.
Ah, c'est Belanov en 86, bien sûr.
Donc c'était URSS. Voilà, donc c'était le seul ballon d'or de leur pays. Attention, quoi qu'est kiff kiff, Scholes, Pogba, Dybala, Breitner, Le Guen.
Paul,
mais oui, c'est Paul.
Mais je l'ai dit, Paul. Paul.
Non, mais toi, tu sais, tu l'as pas dit en réponse, tu pensais tout haut.
Mais j'ai dit Paul. Quand je dis Paul, il m'a dit, on me croit pas. Donc je vais crier Paul.
Écoute-moi, je suis témoin. Je suis témoin, il a dit Paul.
Toi, la dernière fois que t'as été témoin, le mec, il est parti pour 20 ans en cabane. Oui. Tu vas arrêter.
Et l'avant-dernier est décédé.
Il a fini dans le vieux port. C'est témoin assisté.
Je dis Paul.
Je suis pas Adrien Aiguin, moi. Tu vas pas me la faire, moi. Tu comprends ce que je veux dire?
Les réputations, c'est terrible.
Ah, c'est affreux.
En plus, tu sais quoi, Willy, il répète ce que je dis bêtement, il sait même pas.
Oui, il a dit, il s'appelle Paul.
Je suis arrivé à Monaco en étant tout jeune joueur. Il y avait un vieux dans le vestiaire, c'était Eric Dimeco. On m'a dit, fais tout ce que dit Eric. Et ben, j'ai fait pareil.
Voilà. Bravo. Alors attention, on va faire. Bon, comme vous le savez, nous déplorons évidemment la disparition de notre ami Michel Hidalgo. Évidemment, on déplore aussi le deuxième tour d'Anne Hidalgo, mais ça n'a rien à voir. comme Michel Hidalgo, et c'est deux tragédies dans la même année.
Je ne vote pas à Paris, je ne suis pas concerné.
Tu votes. Ah oui, toi, tu votes pour Steve Briouat. Aina Beaumont. Donc, c'était l'équipe, la magnifique équipe de 84. Hein. Et donc, je vais vous faire des charades. Il faut trouver des joueurs de l'équipe de 84. Attention, mon premier, c'est Ketsen. Mon deuxième, c'est un Roland.
C'est quoi ?
Et mon premier, Ketsen. quai de Seine, un quai de Seine.
Ah, un quai de Seine, d'accord.
Ouais, le quai de la Seine, par exemple.
Putain, mais tu
et
parles
deuxième,
mal, toi.
Et deuxième, c'est un Roland. Oui, je parle pas avec l'accent, si tu veux, je peux te le faire à l'accent. C'est un quai de Seine.
Un quoi? Un Roland?
Et deuxième, c'est
quoi,
un Roland. Un Roland. Un Roland. Un Roland. Un Roland. Un Roland, un rototo.
Moi, je sais qui c'est, Roland.
C'est qui? Un Roland, un rototo, un quai de Seine. Sur les quais de Seine, on dit sur les... C'est un gardien.
Ah, qui bat? Bat? Joël Bat?
Non, non, un gardien...
Rust.
C'était Bergerot. Oh là 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 là, les berges. Oh là là, vous y êtes pas. Allez, deuxième.
Ah, pourri, ouais. Non mais elle est pourrie celle-là.
Oh, attends, ouais. Attention, j'en ai un plus simple. On le criait à Louis XVI sur le billot.
Six.
Mon premier. Mon deuxième se ronge dans la niche.
Amoros.
Amoros. Eh oui, Amoros. Amoros.
Os.
Amoros, ça marche. Un point pour Eric. Attention.
Attends, on est à deux points pour Marseille, un point pour Strasbourg.
Je vais essayer Strasbourg. Pour Paris. Strasbourg, attention, la police des jeux peut vous la retirer celui-là.
Et zéro pour Paris.
Attention. Mon premier, c'est de la pierre. Mon deuxième est à l'aube. Mon premier est une pierre.
Ah, putain.
Mon deuxième est à l'aube. Une pierre. Est à l'aube. Comment t'es dit?
Rocheteau.
Rocheteau, mais oui. Rocheteau. Attention, bien un joli point pour l'Allemagne, pour l'Alsace, pardon.
C'est quoi le Rocheteau? C'est quoi? Tu peux m'expliquer?
Bah, la Roche, c'est tôt le matin.
À l'aube, c'est tôt.
Ah, c'est tôt, oui, c'est ça. D'accord.
Attention, là, je veux le prénom et le nom. Mon premier, c'est Belle-Fille. Mon deuxième est un prix convoité par les grands hommes. Mon troisième est un bouton pour allumer un appareil électronique.
Non, je peux pas. Je
Bruno Belle-Fille. Bruno Bellone, mais oui, Bru. Nobel on. Bravo, très très bien joué.
Willy, trop fort.
Très fort, Willy. Attention, un autre joueur. Une ville en Suisse. Mon premier. Mon deuxième, le septième est en bobine. Et pour le troisième, on chante au Connemara. En trois. Et ensuite, elle nous suit au soleil. En premier, ville en Suisse. En deuxième, le septième est en bobine. En troisième, on le chante au Connemara. En quatrième, elle nous suit au soleil.
À la Combe, Bernard la Combe.
Berne, Bernard Lac Ombre. Eh oui, Bernard Lac Ombre, bravo, magnifique. Wow. Attention, c'est pas fini.
3-3.
Bravo. 3-3. Pourquoi, vous êtes prêts?
Pourquoi ils sont partis les autres, Willy? Je
les Parisiens.
Pas.
Ils aiment pas jouer.
Alors, les Parisiens. Pas,
celui-là, il est pour vous, les gars.
Charades,
celui-là,
non, c'est pas la peine.
Sinon, Jérôme, t'es toujours là, Jérôme?
Alors.
Non, mais j'y arrive pas, les charades.
On va lâcher les. Comme on a perdu Paris.
Willy, change vite si tu veux que Paris.
On va changer de jeu. On va changer de jeu. On a perdu les Parisiens. Donc, on va faire un quiz, un vrai quiz. Un qui connaît 84? Un qui connaît 84? On va faire un quiz sur l'Euro 84. Pour voir qui connaît 84. Attention, quelle était l'équipe la plus représentée, l'équipe de club la plus représentée en équipe de France à l'Euro 84?
Monaco.
Bordeaux.
2 points, Monaco et Bordeaux. 1 point pour Dimeco, 1 point pour Bribois.
Non mais c'est moi qui dis Monaco.
Moi j'ai dit Bordeaux.
Oui, mais c'est les deux. Monaco les et deux. Bordeaux.
Ah, il aurait fallu 4. Que je dise, il fallait que j'enchaîne Monaco Bordeaux pour prendre 2 points, c'est ça?
Oui, c'est
d'accord,
ça.
D'accord, merde.
Attention, l'appareil. Là il y en a 3. Là il y en a 3. Donc celui qui m'en dit un, je bloque et il peut me dire les autres. Alors. Attention. Quelle était les deuxièmes équipes représentées à l'Euro?
Quelle était la deuxième équipe?
Il y en avait 3. 3 qui étaient mieux. Non.
Alors, il devait y avoir Lyon.
Monaco. En 84.
Saint-Etienne.
Non. Paris, non?
En 84.
Stop, je bloque Daniel Riolo. Paris, il faut que tu me donnes les deux autres. T'as 1 point.
Il y avait Rocheteau. Il était au PSG.
Bon, j'ouvre. Paris, 1 point pour l'équipe Paris.
Toulouse.
Il y avait Domergue et Bergerot.
Bien sûr. Et la troisième?
Eh ben,
Auxerre, Eric Dimeco. Bravo. Un point pour chacun.
Bon, là, on en est à Marseille 5, Strasbourg 5.
Bats Ferreri, c'est ça? Non, Ferreri, t'es à Bats.
Absolument.
Ouais, Bats Ferreri.
Attention, on se rappelle, le meilleur buteur de cette compétition, c'est pas difficile.
Platini.
Oui, merci.
Ah, c'est pas un point là, ou j'ai un point là, non?
Non, c'est pas un point. Non, non. Qui était le deuxième buteur de la compétition?
Eh ben, ça devait être Rocheteau.
Jordao.
Ah non, ça doit être Domergue, non?
Non.
Ah, de l'équipe de France?
Non, de la compétition. C'est un Danois.
Ah, ben c'est comment il s'appelle?
Kjær Larsen.
Je l'ai dit en premier, sûr.
Non. Ah, Simonsen.
C'est Daniel qui l'a
dit. Simonsen.
Non. Non, non, c'est aucun de ces. C'est pas Edgar Larsen.
Jacobsen.
Non. Non.
Andersen.
Oui. Non, ben non. Et c'était Arnesen.
Ah oh, ouais, merde.
Qui, et qui était le deuxième buteur français?
Domergue.
Ah ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, merde. Ouais,
mais tu l'as dit quoi, moi? Ah ouais, moi j'ai dit hier, moi. J'ai dit hier.
Bravo, Gilbert.
Oh, merde. Ah, c'est moi, là. Hop, commence à cruster.
Attention, Michel Hidalgo.
C'est moi. Ben non, c'est
Michel
moi.
Non, Michel Hidalgo, non, bah, bon, il avait un nom, il avait un nom espagnol et il a battu l'Espagne en finale. Oh, c'est cocasse. Mais qui était son homologue espagnol?
L'entraîneur de l'Espagne.
Oui, c'est... bien joué,
ah,
c'est
ouais,
ça.
Munoz, putain, bravo.
Munoz, qui l'a dit en premier?
C'est Daniel.
Bravo Daniel, magnifique.
Ça m'arrache le cœur de lui donner le point con.
Quel futur Marseillais?
Quand c'est des vraies questions, on s'en sort.
Ah bah tiens, j'en ai une vraie question là. Quel futur Marseillais? Alors là, je ne sais trouve pas.
Jurès.
Mais il est fou lui, attends. Quel futur Marseillais marque contre les Bleus à l'Euro 84?
Ah, contre les Bleus?
Ouais.
Un Espagnol?
J'ai pas dit ben ça,
non, il y a 2-0.
Ah, un Espagnol! Un Espagnol, ils ont eu du mal. Hein.
Garrett!
Arconada, il a pas joué à l'OM.
Non, 5-0, il n'y a pas. Ah, Stojkovic!
Stojkovic!
Raga, il est énorme.
Quand il y a des vraies questions, on est là.
Hein. Ouais. Et. On se rappelle de la demi-finale. Où elle se jouait, la demi-finale?
Marseille.
Mais oui, mais sauf que c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est l'autre.
Nantes.
À Lyon.
Non, le stade.
Paris-Bordeaux, Lyon.
Lyon. Le stade.
Gerland.
Ah. C'est, j'avais bloqué pour l'équipe Strasbourg. Hein? Attention.
Ah non,
oui, j'ai dit Lyon. Ils ont dit Lyon.
Oui, mais j'ai dit Lyon. Mais
on l'a dit avant, nous.
Ben ouais. Qui a dit Lyon en premier?
C'est moi qui ai dit Lyon, mais tu voulais le stade. Donc
ben c'est le stade. Oui. Qui a dit le stade Gerland?
Comme à Strasbourg, on est
c'est moi qui ai dit Gerland.
Comme à Strasbourg, okay, on est bon. Willy, on donne
point
le point
Daniel.
À Paris.
Point
ouais,
pour Paris.
Oui, on
leur donne, ils sont pas
d'accord. C'est bon, c'est Daniel. C'est Daniel.
On leur donne, ils sont pas d'accord.
Ça t'arrange, tu les donnes.
Alors attention, on va faire un kick qui craque. Chacun votre tour, mais celui-là, il est pas facile. Tu peux pas avoir sur Internet rapidement. Donc on va le faire. Michel Hidalgo avait la particularité, donc évidemment, d'avoir un nom d'origine espagnole. Et vous allez me donner chacun votre tour, les équipes, alors je vais dire Strasbourg, Marseille ou Paris, un joueur de l'équipe de France qui a un nom d'origine espagnole. Attention, je commence par Strasbourg.
Mais de quoi, de cette année?
Non, toute époque confondue. Un joueur d'accord. Sur okay. L'équipe de France, un joueur de l'équipe de France qui a un nom d'origine espagnole.
Ok.
Willy, concentre-toi.
Alors attendez, je vais dire un des deux de l'équipe à chaque fois comme ça. Gilbert.
Bah écoute, il me semble que Amoros est d'origine espagnole.
Oui.
Amoros, c'est bon. Eric Dimeco.
Donc on devait avoir Christian Pérez, non?
Christian Pérez, c'est bon. Daniel Riolo.
Luis
Fernandez. C'est un nom d'origine espagnole. Hein.
Luis Fernandez,
c'est bon. Willy Sagnol.
Je peux aider Willy ou pas? C'est mon
non,
équipe.
Non.
Il faut que Willy je dise Sagnol. Aussi l'équipe de France.
Ouais, d'origine espagnole. Il y en a plein. Hein. Il y en a un paquet. Hein.
Oh là,
un nom d'origine espagnole, un nom hispanisant.
Je sais pas.
Bah, il a perdu.
Un nom facile.
Bon. Perdu.
Willy est éliminé. Il reste Gilbert dans l'équipe.
Ah, merci.
On passe à Roland. Une fois.
Perdu.
Deux fois. Non. Perdu, non, Roland. Éliminé. Jérôme Rotten.
Lucas Hernandez,
c'est bon. On passe à Gilbert Bribois.
Christian Lopez,
c'est... Non, pas déjà dit, c'était Christian Pérez qui était déjà dit. Donc Christian Lopez,
C'est pas Lopez, il n'y a pas S, non hein?
Non, c'est
Lopez.
Non, je décode.
Donc il reste, c'est à Eric Dimeco.
Joueur avec un nom espagnol.
Une fois.
Oh l'enculé.
Deux fois.
Oh, le stress.
Éliminé, Daniel Riolo.
Non, Pires, c'est Espagne, c'est portugais. C'est portugais. Mais il avait son père qui était, il avait moitié.
Ouais, et sa grand-mère aussi qui était italienne.
Non, mais on s'en fout.
Non, il était italien. Du temps, discutant. Oh, tu laisses faire ça.
Allez, c'est fini. Une fois.
Bruno Rodriguez. Il a été appelé une fois.
Il a pas joué.
Il a jamais joué. Il a jamais été.
Il a été appelé une fois.
Il a jamais eu de sélection. Pas de sélection, zéro. Éliminé, Gilbert. Tu es le seul qui reste, je crois.
Et je vais gagner haut la main avec l'énorme Jean Castaneda.
Jean Castaneda, je rappelle, il y en avait. Alors je vais vous donner, vous allez hurler.
C'est bon ou pas? Ah ouais, mais il doit
oui,
y en avoir 1000.
Tu as gagné.
Il doit y en avoir 1000. On est trop nuls.
Attends, il y avait Fabien Barthez, nom d'origine espagnole.
Barthez, c'est pas espagnol, n'importe quoi.
Ah si, bah si. Daniel Bravo, excusez-le.
Non,
nom d'origine espagnole.
Oh mais non.
Eric Cantona.
Oui, Cantona, oui.
Eric Cantona. Jean-François Larios.
J'étais encore Jérôme qualifié, je vous le dis.
Jérôme n'était pas éliminé. Hein.
Ah mince, ouais, Rantel est encore qualifié.
Mais c'est pas grave.
Ouais, si bon, t'en as un que j'ai pas dit.
Barthez.
Bah non, que j'ai pas dit.
Ah bah non, mais il les avait sur sa liste. Le j'avais, quiz est fou.
J'avais sur
quiz
ma liste.
Non mais le quiz est fou.
J'avais sur ma liste. De toute façon, c'est fini. Il y a un quiz annulé.
C'est sûr, ça vous arrange.
À chaque fois, c'est comme l'autre soir. Vous avez encore fourré une question sur la finale de 95.
Quiz annulé.
Vous avez dit l'autre jour, vous êtes encore trompé sur la finale où se jouait la finale de
Julien. Quiz annulé. On prend les vainqueurs d'hier. Du coup, on reprend ceux d'hier. C'est comme le championnat.
Le quiz est annulé. Et donc, on va faire les comptes.
Alors comptes, si le juge est annulé, ça fait Paris 3, Marseille 5, Strasbourg 7. Willy.
Oh et lui non.
Victoire
le mec.
De Strasbourg.
Ouais, non, mais le mec.
Facile.
Le mec.
Je pocket et je compte pas le quiz qu'on vient d'annuler, sinon on avait 10. Voilà.
Non mais même s'il y avait le quiz pour Daniel et Jérôme, c'était gagné pour
l'Alsace. Tu sais quoi, je vais réécouter demain, je vais recompter parce que j'ai pas confiance à Gilbert.
Ici on n'en triche pas.
Ah oui, c'est sûr.
Eric, en tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci Willy, merci Jérôme, merci.
Salut les gars,
salut les copains,
salut les amis.
Merci Daniel. Demain soir, l'after sera là à 22h avec Nicolas Villas. Bonne nuit à tous. Salut Julien et à demain.
Salut les copains, ciao.
Vous êtes un salaud.
RMC. L'after foot.